Il est 8h41.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Olivier nous appelle de Paris, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Olivier.
Je suis pilote sur l'Airbus A330, la même machine qui a eu l'accident entre Rio et Paris. Et je voudrais savoir quels ont été les enseignements que Air France a tirés de cet accident, tant en termes de formation des pilotes que de procédure.
Merci pour cette question, Olivier. Frédéric Gaget.
Oui, c'est une question très importante, hein, parce que la sécurité des vols, j'ai souvent répété dans la compagnie que c'est même plus qu'une priorité, c'est notre raison d'exister. Dans la compagnie aérienne, dans toutes les compagnies aériennes, la sécurité des vols est vraiment un enjeu absolu, un enjeu majeur. Et c'est vrai qu'après l'accident du Rio-Paris, il y a eu une réorganisation en profondeur, hein, qui a été menée au sein d'Air France, qui a commencé d'ailleurs par demander à des experts externes, pas seulement français, également provenant de pays qui ont un savoir-faire en matière de sécurité aérienne, pour réanalyser tout le processus de sécurité des vols dans la compagnie. Donc c'est un processus qui a pris une analyse qui a pris plusieurs années. Il y a eu des recommandations. Et il y a eu de la part des pilotes d'Air France d'ailleurs une attitude beaucoup plus, enfin très ouverte pour partager les paramètres de vol, être capable de nouer avec des managers des réflexions sur la façon dont ils avaient conduit leur vol quand ils avaient des questions qu'ils se posaient. Donc un vrai effort de transparence, d'ouverture, et je crois que ça a fondamentalement changé au sein de la population des pilotes, la façon dont on vit cet impératif de sécurité des vols chez Air France. Et je crois que ça a été, pour Air France, quelque chose d'extrêmement important.
Étienne nous appelle au standard d'Inter. Bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question sur... Donc, il y a eu un effet d'annonce il y a quelques années de Ryanair pour des vols Paris-New York à 1€. Et je voulais savoir si cette ouverture vers les vols long courrier de ces compagnies low cost était une menace pour Air France.
Oui, je crois que comme toute industrie, si vous voulez, transport aérien connaît des mutations en profondeur. Il y en a une très importante qu'on connaît, ça a été le développement des compagnies low cost, qui ont développé beaucoup de vols entre des villes secondaires, hein, européennes, qui avant n'étaient pas souvent desservies par les grandes compagnies qui, elles, travaillaient surtout autour de leur plateforme principale de correspondance. Donc ça a été une révolution au niveau du transport aérien, qui a amené par exemple Air France à développer Transavia. Hein, vous savez qu'aujourd'hui Transavia est la compagnie low cost du groupe Air France, qu'elle est la première compagnie low cost au départ d'Orly par exemple, ou bien la seconde compagnie low cost au départ de Paris. Donc on n'a pas délaissé ce segment, et vous avez raison d'indiquer qu'il y a aujourd'hui quelques compagnies qui développent un concept d'opération low cost sur des vols long courrier. Alors il y a eu à la fois des tentatives, il y a eu parfois des échecs, et il y a eu des compagnies qui commencent à avoir quelques succès, aujourd'hui assez modérés mais pas négligeables. Donc on porte évidemment une attention très forte au développement de ce nouveau segment d'activité du transport aérien. Et c'est pour ça que quand on parle en interne de compétitivité, d'efficacité et de capacité à offrir des billets peu chers, ce qu'on fait déjà, eh bien je crois que c'est de fait une préoccupation qui anime beaucoup nos réflexions stratégiques. Donc on ne traite pas du tout par l'indifférence ou par le mépris, ce développement d'un nouveau segment de marché. Donc vous avez raison, c'est également, ça prouve la vivacité du transport aérien comme industrie innovante et qui connaît des modifications importantes.
D'autres questions, beaucoup de questions hein, aussi sur l'environnement, sur le social, on va y revenir. Que disent les litons sur les réseaux sociaux, pardon, Hélène Roussel.
Béatrice Lestig de la CDT qui vous a écouté. Les questions d'équilibrage Air France-KLM sont légitimes, dit-elle, mais ne se règlent pas à coup d'ultimatum. Partage d'activité Air France-KLM, allez-vous demander une baisse de la redevance d'aéroport pour que la France soit plus compétitive?
Alors, il y a deux choses. Ce que dit Madame Lestig, je l'ai dit aujourd'hui, je crois que cette idée de l'équilibre au sein d'un même groupe des deux compagnies que sont Air France et KLM est une question légitime et pertinente. Hein. Je n'ai jamais dit le contraire depuis le début des discussions qu'on a avec les pilotes. Je rajoute juste que je ne peux pas traiter cette question tant que Jean-Marc Janaillac n'est pas arrivé, car c'est des questions qui portent sur le développement du groupe et des deux compagnies dans les années qui viennent, donc on ne traite pas ces questions à la légère.
Donc il y a un effet de vacances quand même.
Il y a un effet de vacances, non, je crois qu'il y a un effet de respect de la part d'Alexandre de Juniac qui dit je ne peux pas prendre aujourd'hui des décisions qui engageraient le futur du groupe sur plusieurs années, donc c'est pas une question de vacances, et on parle quand même de quelques jours, si vous voulez.
Oui.
Donc dire...
quelques semaines.
Bon, quelques semaines. Si. D'ici le 4 juillet, ça se rapproche assez vite.
Ah, 6 juillet. Bon. Sur le partage...
Non, le 6, c'est le 4. Mais...
Ah bon. Sur le partage Air France KLM, Eric, depuis Bruxelles. Bonjour, Eric. Allô, allô.
Monsieur Gaget. Oui, allô.
Nous vous écoutons.
Oui. Bonjour, monsieur Gaget. Bonjour, monsieur Cohen. Et merci à France Inter pour son excellente matinale.
Merci.
Et pour rebondir sur le développement stratégique d'Air France... Le partenariat avec KLM est évidemment essentiel. Or, je me demandais, devant les ennuis à répétition d'Air France, si KLM n'aurait pas envie de reprendre sa liberté et auquel cas Air France se retrouverait bien seule pour affronter les défis du transport aérien de demain.
Merci pour cette question, Eric. Frédéric Gaget.
Non, mais merci de votre question. Deux choses. D'abord, je connais bien KLM, j'y ai travaillé pendant 7 ans. Bon, donc je sais comment travailler avec nos amis hollandais et... comment progressivement on a construit ce groupe. Ce que je dis souvent, c'est qu'Air France KLM, le projet Air France KLM a été à l'époque, il a été lancé en 2004, concrétisé en 2005, a été une énorme innovation. Une énorme innovation en Europe, constituant la première base de la consolidation du secteur. Et si vous regardez un pays comme les États-Unis où les compagnies aériennes vont bien, ça a d'abord été par, certes, des rationalisations et des travaux sur les coûts, mais également beaucoup parce que cette industrie se consolidait au sens où les compagnies se sont rapprochées et sont arrivées finalement à créer un environnement plus favorable à leur performance économique. On avait en 2005 une Europe de l'aérien extrêmement fragmentée, beaucoup de petites compagnies, une, deux, trois par pays. Et le projet Air France KLM a été une vraie innovation dans cette industrie. Donc je dis souvent, ne gâchons surtout pas ce projet. Alors évidemment, il peut y avoir des discussions sur la façon dont on conduit ce projet. La question de l'équilibre entre les deux compagnies, je l'ai dit, est légitime. Mais évidemment, je vous rejoins parfaitement, il serait terrible qu'un jour on puisse envisager, ce que je n'ose pas faire une seule seconde, que ce projet ne se poursuive pas.
Pour c'est moi, une inquiétude partagée. Apparemment, on a vu circuler une lettre des pilotes de KLM adressée à leurs homologues d'Air France il y a quelques jours, qui disait « Mais écoutez, ce que vous faites, en gros, hein, si j'ai bien lu, ce que vous faites n'est pas raisonnable et vous fragilisez l'ensemble avec vos mouvements, c'est
oui,
ça ?»
Oui, alors ça renvoie, et à nouveau je retiens ça de mon expérience hollandaise, à un concept qu'on appelle le polder économie qui, aux Pays-Bas, amène partenaires sociaux et direction à toujours trouver une solution. Et donc la négociation, la recherche du compromis
sont la clé. Et alors c'est très exotique, vu d'ici.
Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que évidemment cette culture du compromis, refuser les ultimatums, quand on a un problème, se dire il faudra qu'on trouve une solution, ça soit une approche qui fonctionne aussi chez Air France.
Il faudra combien de générations ?
Ben écoutez, je pense qu'il faut probablement aller plus vite que ce qu'on imagine, parce qu'il y a un moment où juste se refuser à cette recherche de compromis ou poser des questions qui n'ont pas de réponse immédiate n'est pas, je crois, la bonne solution. Donc je comprends un peu la lettre de nos collègues pilotes hollandais à leurs collègues français.
Des questions, je le disais, peut-être vous en avez aussi, Hélène Roussel, sur l'environnement, sur la pollution, sur la COP21. Il y a un auditeur qui parle, alors je ne vois pas bien à quoi il fait référence, mais à un accord au sein de l'aviation qui doit être mis en place en 2020. Vous voyez de quoi il s'agit, Frédéric Gaget ?
Heureusement que je vois de quoi il s'agit.
Non, mais sur cette échéance-là, oui, précisément.
Absolument. Non, mais vous savez que le transport a été exclu des accords COP21. Pourquoi ? Parce qu'il avait été demandé à l'OACI de proposer d'ici la fin de l'année un mécanisme qui sera mis en place un peu plus tard, consistant à permettre aux compagnies aériennes de contribuer, comme d'autres secteurs industriels, à la réduction des émissions de CO2. Donc il y a actuellement des travaux qui sont poursuivis à l'OACI et qui conduiront à des propositions d'ici la fin de l'année. Donc on a parfois fait le reproche au transport aérien de ne pas avoir été partie prenante à la COP21, en fait, il y avait des raisons très précises à ça. C'est que c'est un accord OACI qui apportera la contribution du transport aérien à la réduction des gaz à effet de serre.
Alors, ça fuse dans tous les sens maintenant. Il y a aussi des questions de tarifs. Pourquoi les vols sur la Corse sont toujours hors de prix, demande Philippe depuis la Corse. Question sur l'Afrique. Pourquoi aller en Afrique coûte plus cher qu'aller aux États-Unis alors qu'on a autant de kilomètres de vol? Il y a pas des questions qui vous sont souvent posées sur la transparence en matière de tarifs aériens, Frédéric Gagé? Oh, vous allez me répondre que c'est l'offre et la demande ou
non,
comme ça?
Non, je vais vous répondre que je connais pas d'industrie qui soit aussi transparente en matière de tarifs que le transport aérien. Trouvez-moi un site internet sur d'autres services qui offre l'ensemble des possibilités de rejoindre une ville à une autre à travers le monde, en indiquant sur le même écran toutes les possibilités offertes par toutes les compagnies pour les vols des 6 prochains mois. Donc je crois qu'il y a une chose qui doit être très claire pour nos, pour vos auditeurs et nos clients, c'est qu'il y a, du fait du régulateur, hein, c'est des choses qui ont été imposées au transport aérien il y a déjà bien longtemps, il y a une transparence absolue qui permet une comparaison totale
des tarifs.
Oui, c'est ça,
on peut comparer.
Mais il y a beaucoup d'industries, beaucoup de secteurs où on ne vous indique pas le prix d'une voiture dans tous les garages européens, par exemple.
Vous n'avez pas répondu à la question. Donc, pourquoi c'est plus cher d'aller en Afrique que d'aller à New York?
D'abord, c'est pas vrai. Il faut regarder sur des cas précis. Il y a des tas de vols vers l'Afrique qui sont des tarifs peu chers. Et il y a des tas de tarifs vers les États-Unis qui sont aussi des tarifs peu chers. Ce qui est vrai, c'est qu'on gère les pointes et les creux. Il y a des gens qui préfèrent tous partir le samedi, donc là les prix augmentent. Et il y a parfois des gens qui en milieu de semaine ont moins besoin de voler, donc les prix sont plus bas. Donc là aussi, parce que nous sommes transparents, le client, le passager peut très facilement comparer.
Comment est-ce possible pour un même vol, les prix des billets qui varient du simple au triple, demande cet internaute MyFred.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le yield management. Alors le yield management, ça consiste à dire qu'il peut y avoir en début de... qu'on commence à mettre un vol en vente peu de demandes. Et soudain, pour un événement, parce que je sais pas, il y a un événement particulier dans une ville, soudain la demande augmente. Et donc c'est vrai que le tarif peut augmenter entre 6 mois avant la réservation et la veille du départ.
Et on se retrouve assis à côté de quelqu'un qui a payé 2 fois moins cher que vous.
Mais qui n'a pas acheté le billet au même moment.
Au même moment. Frédéric Gagé, on vous retrouve dans un instant avec Augustin Trapenard qu'on va accueillir et Alex Vizorek.